passer. C'est la seule affaire dans la salle d'audience là-bas, donc...
Canu Info du vendredi.
Du coup, je sais pas combien de temps ça va durer, mais s'il y a moyen de faire du bruit à partir de 14h pour les copains dedans, qui en ont bien besoin. Donc le procès est ouvert.
Reportage.
Comme peut-être vous êtes au courant, le 23 septembre, il y a 7 camarades antifascistes qui sont fait arrêter et qui sont été placés en garde à vue. Certains sont fait arrêter chez eux et perquisitionnés, certains dans la rue, certains dans leur centre où ils font leur étude. Et ils sont placés en garde à vue des 48 heures, suite à laquelle les parquets ont décidé d'utiliser une procédure qui est assez nouvelle, qui existe depuis 2019, que la comparution immédiate à délai différé. Et ce qui fait qu'ils ont passé devant un juge de liberté qui a institué, qui a placé 4 des 7 en détention provisoire.
Pourquoi ces personnes elles ont été arrêtées?
Et elles ont été arrêtées suite à une altercation avec Civitas. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un groupuscule un peu néofasciste qui a fondé entre autres un parti il y a quelques années. Et dont il participe par exemple Gavriac, un ancien des jeunesses nationalistes qui a été viré même de Front National pour faire le salut nazi, voilà, alors pour se donner une idée. Et qui veut instaurer en France les règnes des Christ et rois, pour dire un peu voilà, la teneur du truc. Il y a une petite altercation suite à laquelle il n'y a même pas eu de plainte de la part des Civitas. Et c'est le procureur qui s'est auto-saisi lui-même dans cette affaire. Ce qui est assez étonnant, vu les nombres d'agressions fascistes qui s'en suivent depuis quelques années à Lyon et qui n'ont pas eu de suite.
En gros, le procès va durer forcément plusieurs heures, puisque c'est un gros procès politique, il y a 7 inculpés, vous le savez. Donc on s'est dit que ce serait pas mal qu'il y ait des personnes qui fassent l'aller-retour toutes les heures pour donner un peu des infos de ce qui se passe à l'intérieur, pour que vous sachiez à l'extérieur ce qui se passe dedans, où ça en est, comment se passe l'offensive et la défense.
La cantine était là, les stands aussi, et de nombreux soutiens.
Qu'est-ce sur la table là?
Ah, qu'est-ce sur la table? Alors, il y a des croquettes d'arancini.
Une tarte au poireau, tarte au butternut, carotte et sauge, des scones de pommes de terre aux herbes, des tartes au chocolat, des tartes au citron, citron vert.
Pour les 7 inculpés, l'antifascisme n'est pas un crime. Relax.
On est là aujourd'hui pour nos 7 camarades donc, qui sont en procès. Donc ici on a une table, donc la table de presse ça nous permet de pas vendre quelques goodies mais en tout cas de vous montrer un peu ce qu'on fait. On a des articles sur l'action de l'extrême droite à Lyon notamment, on documente un peu en quoi l'extrême droite est un danger aujourd'hui à Lyon, et notamment à Lyon où ils sont particulièrement actifs. Donc voilà, bah moi je suis à la table de presse et je suis là pour donner quelques petites infos, quelques petits tips et pour soutenir les copains quoi.
Il y a qui est là comme collectif aujourd'hui?
Alors bon, on a la GAL, il y a qui comme collectif? Il y a le comité de soutien, des inculpés, et je ne saurais pas exactement vous dire qui est-ce qu'il y a comme collectif, je crois qu'il y a des gens de la jeune garde.
À 15h, on nous apprend que la défense demande à ce que les détenus puissent sortir du box en s'appuyant sur une directive européenne. Malgré les recommandations de la Cour européenne des droits de l'homme, la demande est refusée sous prétexte de sécurité.
Déjà un premier petit rappel de ce qui se passe à l'intérieur. Donc l'audience elle a commencé. C'est passé qu'il y a les trois détenus qui sont enfermés, ils comparaissaient dans le box, des accusés. Les autres ils ont été appelés un par un. Ça a énuméré pour chaque personne un peu les faits qui étaient reprochés. Du coup c'est un peu préparé pour tout le monde. C'est violence volontaire sans ITT sur personne qui n'avait pas été déterminée en réunion et groupement en vue de violence ou de destruction. Voilà, il y a une personne qui comparaît libre qui a aussi un refus d'ADN et une autre personne qui comparaît détenue qui a un refus de donner des codes de son téléphone.
Moi, je suis là aujourd'hui parce que il y a des gens qui sont jugés pour quelque chose qui est pour moi totalement injuste. C'est-à-dire, il y a des gens qui passent au tribunal alors qu'il n'y a pas de dépôt de plainte, qu'il n'y a pas de blessés. Et pour une bagarre avec, contre un autre camp, et dans l'autre camp, il n'y a personne qui est inquiété par la justice. Voilà, c'est pour ça que je suis là.
Ouais, on est pas mal, bah, j'ai l'impression. On commence à être une bonne cinquantaine, voire même un peu plus, je sais pas.
Pourquoi caméra sans répit, m'épis-tu du haut de ton poteau? Pourquoi me fliques-tu? Y'a des flics qui tuent. Pourquoi ne les vois-tu? Nous en bas dans la rue, on n'en peut vraiment plus. Oh, pourquoi caméra sans répit, m'épis-tu du haut de ton poteau? Pourquoi me fliques-tu? Y'a des flics qui tuent. Pourquoi ne les vois-tu?
À 16h, nouveau point à l'extérieur. Les avocats de la Défense demandent plusieurs nullités dans la procédure, notamment sur l'utilisation des fadettes, c'est les factures détaillées, en dehors du jour des faits. Mais aussi sur les perquisitions, car il n'y a pas eu de demande au juge des libertés et de la détention pour toutes. Enfin, la dernière demande vise l'utilisation de la vidéosurveillance, car les enquêteurs n'ont pas avisé le ministère public pour la demande de vidéo.
Donc les fadettes, c'est ce qui est lié au téléphone portable pour géocaliser les inculpés en dehors du 28 août, qui est la journée qui est censée intéresser la procédure et le tribunal. Et donc ils ont été pendant une bonne partie du mois de septembre géolocalisés alors même que le ministère public et la police connaissaient déjà leurs adresses. Donc cette utilisation de la géolocalisation est considéré comme étant une atteinte à la liberté au titre du respect de la vie privée.
Et voilà, et aussi donner un peu des nouvelles des copains détenus particulièrement, qui ont l'air tous très fatigués, donc je pense qu'ils ont très fort besoin de nos soutiens. On espère qu'ils n'auront plus besoin de nos courriers après ce soir, mais voilà, se rappeler que ce qu'ils subissent aujourd'hui, c'est vraiment la mort, et que c'est important qu'on soit tous là ici aujourd'hui et qu'on reste jusqu'au bout. Voilà.
Depuis, quatrième garde, comme je l'ai dit, ont été placés en détention provisoire, dont un d'entre eux, il a été envoyé à la prison de Villefranche au lieu d'aller à Corva pour les séparer des trois autres. Et ce qui fait qu'il a été plus loin de sa famille aussi, ça a été beaucoup plus compliqué d'avoir des parloirs, etc. Les trois autres, ils sont en contrôle judiciaire assez strict. Et depuis, les quatre qui ont été incarcérés, ils sont passés à plusieurs reprises devant un juge de liberté pour statuer de leur mise en liberté en attendant les procès. Un a obtenu sa liberté, les trois autres sont restés en prison depuis, malgré qu'ils ne s'attendent pas trop qu'ils continuent d'être en prison. Voilà.
À l'extérieur, comment le soutien s'est organisé ?
En fait, assez vite, il y a un comité de soutien qui s'organise entre des amis, des personnes appartenant à la famille, au cercle proche et aussi au cercle de groupes politiques auxquels certains appartiennent. Et on a commencé à se diviser un peu des tâches qui nous semblaient un peu essentielles, dont comment faire de l'argent pour les avocats, pour leur envoyer des mandats en prison à ceux qui étaient prisonniers. On a commencé aussi à rédiger une tribune qu'on a publiée la semaine dernière sur Mediapart, qui a été signée par 119 personnes, des universitaires, des avocats, des juristes, des écrivaines. Voilà, ils ont signé cette tribune. Faire des communiqués et essayer de faire le maximum de bruit de cette justice de section qui devient de plus en plus la norme, comme on peut voir. Aussi, on a organisé des soirées soutien, encore pour faire de l'argent, pour visibiliser, contacter des médias, contacter des journalistes. Il y a un peu tout le monde s'est agité de tous les côtés, imprimer des tracts, faire des banderoles, voilà. Et organiser, faire un appel massif un peu à cette journée de procès pour qu'il y ait un peu de monde en solidarité et soutien avec les inculpés.
À plusieurs milliers, on sort point levé, avec nos sabots, ils ont les pavés. Écoutez la revendication, on prend la rue pour donner le ton. Écoutez la revendication, ce sera la dernière sommation. Ce sera la dernière sommation. Ce sera la dernière sommation.
Ouais.
on a su qu'il y avait le procès des 7 qui ont été inculpés pour soi-disant des invectives contre un groupe Kiwitas, qui lui est un groupe fasciste, constitué, et qui n'a pas du tout été inquiété, alors que dans une altercation, il y a toujours deux parties. Et comme par hasard, ce sont toujours les mêmes qui sont inculpés. Voilà, donc nous, on proteste contre l'injustice.
Ces inculpations s'inscrivent dans un contexte local d'impunité pour les groupes d'extrême droite au niveau judiciaire.
Ouais, alors là, le procès, l'idée, c'est quand même de le mettre en perspective avec le contexte politique et particulièrement le contexte local d'impunité totale des fascistes qui depuis plusieurs années attaquent des militants, font des ratonnades, attaquent des manifs, s'en prennent à des locaux politiques, associatifs, syndicaux, sans que jamais le parquet ne poursuive, quoi. La plupart du temps, soit les plaintes ne sont même pas transmises au parquet, c'est-à-dire qu'elles restent dans les tiroirs de la police, soit elles sont classées sans suite par le parquet, sans qu'il y ait d'enquête sérieuse. Donc déjà, c'est de mettre en perspective ça, alors que là, dans le dossier qui nous concerne aujourd'hui, il n'y a même pas de plainte, on n'a pas de plaignant, il n'y a pas de victime. Là, sur la première partie du procès, à l'énumération des faits, c'est des violences volontaires en réunion commises sur une victime non identifiée, quoi. Sachant que cette victime n'est pas identifiée, néanmoins, dans leur procès-verbal, les flics nous expliquent qu'ils ont contacté la victime. On ne sait ni par quel moyen, ni qui c'est, mais ce qui donne des indications sur les liens qu'entretiennent les flics avec les milices d'extrême droite. La plaidoirie, c'est de dire que voilà, qu'on est face à une affaire politique montée de toutes pièces par le parquet, probablement téléguidée en plus haut lieu, qui vise à criminaliser nos luttes et qui vient à criminaliser plus particulièrement la lutte antifasciste. C'est de bon ton politiquement de faire ça en ce moment. Je crois que c'est un peu l'agenda politique, médiatique et surtout l'agenda des présidentielles qui se profile avec ce procès. Puis 2016-2017, c'est un peu la folie. Alors il y a eu pas mal d'attaques de la Plume Noire. Donc la Plume Noire, c'est une librairie anarchiste dans les pentes de la Croix-Rousse. Il y a une fois deux personnes qui se sont fait rouer de coups devant la Plume Noire qui participaient à une collecte solidaire. Donc là, dans ce cas-là, la plainte a été classée sans suite faute de preuves, hein, alors qu'il y avait des vidéos, que les agresseurs étaient identifiables, voilà. La Plume Noire, deux fois aussi, s'est fait récemment, se sont fait casser leur vitrine. Il y a le PCF qui s'est fait, pareil, détruire la vitrine, Radio Canu, qui a été la cible des attaques des FAF à plusieurs reprises. Dans les manifs de Gilets jaunes, on s'est fait attaquer des dizaines de fois par des groupes de hooligans et de néo-nazis du Bastion Social et de Génération Identitaire. La liste est très longue. Il y a même la Maison des Passages qui avait été attaquée en 2017 parce qu'ils organisaient une conférence. Voilà, ça c'est une pratique absolument systématique de l'extrême droite. Ce qu'on constate, c'est que dans ces cas-là, rien n'est fait par le parquet et que quand nous, il n'y a ni plaignants, ni vraiment de victimes identifiées, nos potes, ils se retrouvent en tôle, quoi. C'est la politique de deux poids et deux mesures du parquet de Lyon.
C'est plusieurs centaines de personnes qui ont manifesté leur soutien tout au cours de la journée.
Et donc, c'est pour cette raison que nous sommes là, par inquiétude et pour résister au risque de monter au risque du fascisme, quoi, qui est aux portes de notre...
À 18h, nouveau point. Les inculpés sont interrogés sur les événements des différentes manifestations. Ils explicitent que ce sont bien les militants de Civitas qui ont été les premiers à donner des coups et n'ont fait que se défendre. À ce moment-là, le troisième des sept inculpés est interrogé.
Hein, et puisque, lorsque de temps en temps, il y a un groupuscule qui est dissous, il se reconstitue tout de suite derrière, comment dire, bon, ça rien. Donc là, c'est absolument anormal, c'est un déni de justice, un déni de démocratie.
C'est quoi l'axe de défense principal que vous tenez ?
L'axe de défense principal, en fait, on demande la relaxe des sept, on ne comprend pas y a pourquoi, et surtout dans cette situation-là, quand il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de jour d'été, pourquoi les parquets s'acharnent contre nos camarades tandis que d'autres faits plus graves restent vraiment dans l'impunité.
Le procès est loin d'être fini, mais les soutiens sont toujours là. Vers 19h, fin des interrogatoires. Le procureur réclame 1 à 3 ans d'interdiction de manifestation, du sursis pour les non-détenus et jusqu'à 2 ans de prison, dont avec sursis, au maximum pour l'un des inculpés. La peine minimum est elle de 2 mois avec sursis. Les avocats commencent alors leur plaidoyer.
La nuit finira tel un jour.
Vers 20h15, après 2 heures de plaidoirie de la part des avocats de la Défense, ils demandent tous la relaxe pour les 7 antifascistes. On attend le délibéré.
Tout le monde sort, c'est incroyable, j'ai pas plus de détails sur le verdict, mais en tout cas les gens sortent libres et on est super heureux. C'est
il est
parfait.
Quelle heure là quand même? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il est tard, il est 23h, il est quasiment 23h. Ça fait longtemps qu'on est là, mais c'est super, c'est parfait.
Donc en fait, on vient de passer 6h avec ce truc. Alors, et c'est ce qu'on dit depuis le début, il n'y a rien, il ne s'est rien passé. Alors du coup là, il vient d'y avoir le délibéré et on est trop content parce que personne ne reste en prison déjà. Des gens se sont défendus contre des gens de Civitas et on a passé, ils ont mis 7 heures à s'en rendre compte les juges qu'il n'y avait rien. Voilà.
Les violences sont requalifiées, donc ne sont pas reconnues en réunion. L'ensemble des PV qui sont tirés de la vidéosurveillance tombent. Et du coup, les seules personnes qui sont condamnées à des violences le sont sur violence sans ITT, sans la circonstance aggravante de la réunion.
Oui, et sur la base de ce qu'elles ont reconnu. Donc on le dira et jamais coup, assez, ne pas reconnaître.
Elles sont requalifiées en contravention de 4e classe, et ce qui là a été jugé sur 300 euros d'amende pour les personnes reconnues. Voilà. Coupable de violence.
Et du coup, il y a 2 personnes qui prennent 1 mois de sursis pour le code de téléphone qui n'a pas été donné en garde à vue. Et l'autre personne, c'est sur l'ADN. Voilà. Et du coup, ça fait que
les personnes entièrement relâchées.
Chercher leurs affaires et qui vont sortir après. Les gens sont trop contents, du coup ils crient et il y a eu un petit fumigène pour mettre l'ambiance.
Hier, jeudi 4 novembre, à 23h, c'était une victoire.
Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé.
Yo, yo, si on veut les rendre. Surtout que si on rentre dedans, il se passe rien, quoi. On est juste en train de.
Et c'est pas fini. Une trentaine de personnes s'est retrouvée devant la maison d'arrêt de Villefranche pour venir chercher le camarade qui avait été placé en détention provisoire seul à Villefranche, alors que les trois autres étaient à Corbeil. Le groupe est arrivé vers minuit et demi et il a encore fallu attendre une grosse heure pour qu'ils sortent. Les banderoles étaient de sortie et on a mis un peu de musique pour ambiancer la porte de prison.